Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, tous les soirs, une heure de conversation avec les artistes. Ce soir, c'est avec Melville Poupeau.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Melville Poupeau.
J'ai toujours pensé que c'était un métier qu'il valait mieux pratiquer en secret. J'ai développé, depuis le temps où je réalisais des films dans ma chambre de la rue des Boulangers, la hantise d'être surpris en flagrant délit de jouer à l'acteur. Et aujourd'hui encore, j'éprouve une certaine réticence à me présenter comme tel. Ainsi, j'improvise volontiers différents états civils selon mon humeur et mon interlocuteur. Prof de tennis, avocat, peintre, médecin, sans doute pour ne pas avoir à me justifier au cas où l'on ne serait pas familier avec le cinéma de Raoul Ruiz ou celui de Tep, et dans le cas contraire, par peur de décevoir. Mais la véritable raison de cette coquetterie est sans doute que j'ai toujours eu besoin de me prendre pour un autre pour exister. « Je est un autre », me répétais-je en boucle à l'adolescence, devant l'objectif de ma caméra vidéo, une fiole d'absinthe à la main. Ce sont vos mots, Melville Poupeau, tirés de votre livre « Quel est mon nom ?» 1000 Melville, c'est le titre, lui, de la rétrospective que vous consacre le Forum des images à Paris jusqu'au 26 septembre. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
1000 autres, donc, à travers des films où vous jouez, d'autres films que vous avez choisi de montrer, notamment autour du thème de l'enfant. Alors, en relisant ces mots-là, pour introduire l'émission, je me suis dit que finalement, ils vous avaient bien cerné, ces gens du Forum des images, avec 1000 Melville. Vous voudriez être quoi et qui, ce soir, le temps de notre discussion?
D'être le plus honnête possible et de répondre le mieux possible à vos questions.
Finalement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup dissous. Cette histoire d'identité depuis le tout début, depuis les premiers films, comme si c'était une réflexion à l'œuvre, en jouant, la diminuer.
En fait, c'est le centre de mes préoccupations, cette histoire d'identité. J'en suis arrivé à penser que ça n'existait pas du tout, que c'était une construction abstraite. Et tant mieux, parce que ça coïncide aussi avec mon métier, avec qui je suis sans doute, à savoir... je sais pas. Voilà, donc c'est une abstraction. Je lis un peu sur le sujet, j'y réfléchis, et c'est vraiment devenu mon terrain de réflexion, cette idée de savoir qui on est, qui on était, qui on devient.
C'est marrant que vous disiez lire sur le sujet, parce que moi, en me plongeant un petit peu dans tout ce qu'il y a autour de cette rétrospective, alors ce livre-là, puis les films, et puis d'autres entretiens, j'ai pensé à Clément Rosset et à toute sa philosophie de l'identité, à la question du double aussi. Et au premier film, en tout cas que moi je connais de vous, vous êtes enfant et vous êtes derrière la caméra, vous êtes une personne, vous êtes une autre. Et comme s'il y avait dans le dédoublement la possibilité que quelque chose advienne et qu'il soit... la vérité ou l'honnêteté ou...
C'est possible. Après, la vérité, j'y crois pas trop non plus. Enfin, pas en tout cas en ce qui me concerne ou en ce qui concerne une conception de l'identité. C'est plus un mouvement un peu continu. Alors, il y avait cette idée d'identité liquide aussi, de Bauman, là, ce genre de lecture, comme quoi... on est juste une espèce de matière vivante et en perpétuelle transformation et voilà, sans moment figé jamais quoi. Donc c'est ça aussi, le fait de m'être filmé enfant et d'avoir joué à jouer des rôles, c'était aussi finalement ce que vous appelez la vérité, enfin disons approcher au plus près de la conception que j'ai de ce changement perpétuel quoi.
Mais ça, est-ce que c'est quelque chose avec lequel il est simple d'être en paix? Qu'il n'y a rien de figé, que tout est liquide et tout passe.
En paix, c'est pas non plus un truc que je recherche forcément. Enfin, disons une espèce de sérénité, si ce serait génial, mais ça passe aussi par ce genre de découverte, disons. Si jamais tout à coup je me disais tiens, ça y est, là, c'est moi vraiment moi, ça me ferait flipper plutôt au contraire. Donc en fait, ça me soulage de me dire que je suis toujours en train de courir après quelque chose.
En voyant tous les films, je ne sais pas si vous avez fait ce travail monumental de revoir tous les films que vous montrez ou qui sont montrés au Forum des Images à Paris.
Non, mais par contre, je vais y aller un peu en cachette pour voir des films que je n'ai pas revus depuis l'époque et pour lesquels j'ai beaucoup de curiosité, comme par exemple un film de Daniel Dubrou qui passe, je ne sais plus quand, mais enfin, je ne l'ai pas vu depuis l'époque et c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui fait plus de films malheureusement, mais qui était une grande réalisatrice.
Il y a des choses de vous que vous pouvez voir à l'écran ou ça vraiment ça fait partie de la liquidité qui passe.
Je me force. Il y a des moments où je suis content de constater que je suis pas si nul, que je me trouve pas trop moche, et puis il y a des moments où je souffre de me voir rater quelque chose ou laid ou.
Et ça continue d'être vous.
Bah oui. Bah oui. Bah, j'existe quand même, je veux dire, je suis pas non plus une pure abstraction.
Non, mais je sais pas, je me dis comment on se débarrasse en début d'émission de l'identité, de la vérité, de la paix.
Bah, c'est bien, on va parler
de
cinéma.
Ouais, c'est super. Ah non, mais c'est super. Moi, je trouve ça très très bien de se débarrasser de ça pour commencer. Mais ça veut dire qu'on pourrait vraiment, vous pourriez aussi avoir un total sentiment d'étrangeté en vous voyant.
J'ai un total sentiment d'étrangeté en permanence. Pas seulement à l'écran, mais en venant ici dans les couloirs de la maison de la radio, en vous parlant. Ça, c'est un truc qui m'est familier, qui m'angoissait beaucoup. Les premières fois que ça m'est arrivé et qui maintenant finalement constitue ma perception du réel.
C'est étrange, vous y êtes étranger.
Ouais.
Ça tombe bien, c'est un petit peu ce que dit Serge Danet dans cette archive.
Le cinéma, c'est l'enfance. C'est-à-dire, c'est un sentiment beaucoup plus intense et beaucoup plus insouciant et beaucoup plus grave de ne pas faire partie du monde ou d'être toléré par extrême justesse dans le monde tel qu'il est. Et on sait à l'âge de 5 ans, enfin, c'est comme quand Duras citait Queneau qui disait un écrivain il sait qu'il l'est à 7 ans. S'il n'a pas écrit à 7 ans, c'est pas la peine qu'il insiste. C'est excessif, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'on sait dès la première entrée en cours de récréation, la première année d'école primaire, qu'il y a des gens avec qui on ne sera pas copain et qu'on va faire une bande à 3-4 dans un coin et ce sera les introvertis, et peut-être plus tard les homosexuels, c'était le cas pour moi. En tout cas, les cinéphiles, évidemment, ils ne vont pas partager leur trésor. Ils savent qu'ils appartiennent à une autre version du monde ou de l'espèce humaine. Ce n'est pas fuir. Moi, ça ne m'a jamais intéressé parce que je trouve toujours le monde tel qu'il est formidable. Et je trouve formidable qu'on m'ait laissé l'habiter, finalement. Et plutôt, sans que j'y perde trop de plumes, parce que j'ai à peu près fait ce que j'ai voulu. Mais c'était l'idée, non, on aura ce monde-là, mais on l'habitera enfin. Voilà, moi, l'essence de ma cinéphilie, on l'habitera enfin. Mais ce sera le monde, ce ne sera jamais la société. De la société, il n'y a que des choses horribles à attendre.
Voilà, ça c'est une deuxième chose, troisième chose, quatrième chose dont on peut se débarrasser, l'appétit de la société.
C'est pas mon truc, c'est vrai.
Serge Danet, donc, dans Itinéraire d'un cinéphile, en entretien avec Régis Debray. Serge Danet qui est une figure comme ça, qui pourrait être filaire dans la programmation qui est faite au Forum des Images pour plein de raisons, mais aussi qui est une figure intime, pour en revenir à ce texte ou à ce livre objet Melville Poupeau et aux cartes postales que vous envoyez Serge Danet pour vous tenir au courant de sa recherche du crapaud.
Mmh, absolument. Non, j'ai eu beaucoup de chance de le fréquenter, de le connaître assez bien et de profiter d'une sorte d'enseignement qu'il m'a délivré. Même.
De quel genre ?
À base de blagues, d'humour, d'histoires inventées, d'ironie sur le cinéma et sur la vie en général. C'était quelqu'un qui était toujours à la recherche de la bonne blague et surtout moi qui étais enfant à l'époque, puis adolescent. Il avait dans l'idée de me faire rire et de me donner cette joie de vivre qu'il avait. Et aussi une vision du cinéma qui dépasse le cinéma, mais qui est une vision éthique, esthétique de la vie et du rapport au film et à l'image en général.
Et quand il dit le cinéma, c'est certainement pas l'adolescence, c'est vraiment l'enfance. C'est-à-dire c'est beaucoup plus grave que l'adolescence.
Alors ça, bon, ça, je suis pas capable de rentrer là-dedans, mais disons que moi, l'enfance, c'est mon terrain, c'est aussi un sujet qui me passionne. J'ai commencé le cinéma enfant, donc ce sera toujours lié, le cinéma et l'enfance, pour moi, sont vraiment liés, quoi. À quelque chose de la découverte, de l'émerveillement permanent. Je pensais aussi ce que Danet voulait dire. C'est-à-dire que face à un film, on redevient enfant et on remet en jeu beaucoup de choses et on découvre.
Oui, enfin, il dit aussi que, outre l'émerveillement, il y a l'idée que, enfant, c'est le moment ou jamais où on comprend qu'on sera étranger à quelque chose de collectif, étranger à quelque chose de la société, justement, et que, il est peut-être pas du côté de la douleur, mais il est côté du, ça rigole pas de réaliser ça, à 5 ou 7 ans, ou 8
non,
ou 10.
Sûr. Mais là aussi, je le rejoins, c'est que j'ai toujours eu ce sentiment de pas faire partie d'un groupe, d'être un peu isolé, de chercher d'autres, solitaire pour former une bande, comme il dit là. C'est aussi un peu ce qui est dit dans le film de Romer, Conte d'été. Enfin, ce que mon personnage dit, c'est qu'on a du mal à s'identifier à un groupe et à le collectif, c'est moyen mon truc. Alors, je fais du cinéma qui est quand même un sport collectif, qui est
quand même
c'est à base d'équipe. Et, mais c'est vrai que je suis plutôt solitaire, quoi. Et puis le cinéma, la cinéphilie, c'est une pratique qui est très solitaire. On rentre dans une salle obscure, on parle à personne, silence religieux. En général, les grands cinéphiles, quand ils sortent d'un film, ils en parlent pas, ils le laissent maturer, et éventuellement ils écrivent dans leur coin sur le sujet, et après il y a de grandes discussions. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est un truc de repère. Alors aujourd'hui, la cinéphilie, c'est pas la même qu'à l'époque de Serge Danet. D'ailleurs, beaucoup de son travail consiste à faire une analyse justement de ce décès de la cinéphilie. Donc... Mais je sais qu'à l'époque, c'était quelque chose de précieux. C'était un trésor qu'on gardait jalousement. On partageait certaines idées avec certains. Puis ceux qui n'avaient pas les mêmes idées étaient vraiment l'ennemi juré. Pas seulement par rapport au goût des films, j'aime pas, mais à une conception de la vie. Oui.
D'ailleurs, il dit c'est un trésor qu'on ne veut pas partager. Dans le petit texte que je lisais, Melville Poupeau, il y a vraiment cette idée-là que vous avez très vite compris qu'il fallait faire les choses en secret. Que, y compris dans un art de la monstration...
Oui.
En fait, il y avait une manière de se planquer.
Je continue à le penser et je suis pas loin de penser que j'avais plus ou moins raison dans cette intuition parce que l'honneur qu'on me fait de faire cette rétrospective montre que même en étant le plus discret possible, enfin disant en tout cas le plus discret peut-être, oui, enfin voilà, ça n'empêche pas au film d'exister et aux gens de vous repérer et au contraire, ça fait peut-être quelque chose de précieux dans un certain sens de laisser place à la découverte, enfin d'être toujours en devenir ou d'être potentiellement découvert, quoi. Et je pense que c'est là qu'il se passe quelque chose, c'est quand les gens vous découvrent. Alors quand on est là depuis, moi ça fait 35 ans, ou même des acteurs qui sont là depuis 50 ans, il y en a qu'on continue à découvrir. Moi il y a des choses que je connais par cœur, mais qu'on cette faculté intrinsèque d'être encore potentiellement découvrable.
Parce que ça, ils ont eu ou elles ont eu dans leur façon de faire leur métier ou de vivre l'obstination de garder leur trésor, de pas complètement le dévoiler.
Un peu, voilà, c'est ça. Et puis c'est aussi peut-être une faculté de d'être pas figé dans un moment du temps et de l'espace. C'est quelque chose qu'on peut qui a une nouvelle forme même à chaque fois qu'on le revoit, qu'on le regarde, quoi.
Danet, il disait finalement ça se comprend tôt, ça se comprend. Dans l'enfance, qu'on sera cinéphile, qu'on sera telle ou telle chose. Mais dans la manière dont vous racontez votre aventure de cinéma, Melville Poupeau, vous racontez souvent que c'est pas tant de l'avoir compris intimement que d'autres voulaient, entre guillemets, faire tomber dessus. Alors vous diriez quoi maintenant ?
Alors je dirais que ça continue, que j'ai... Alors je sais pas si c'est de la chance ou si c'est quelque chose que j'ai en moi, mais je reconnais d'assez loin les gens dont je sais qu'ils vont m'instruire. Ou m'initier, ou me transmettre quelque chose. C'est vrai qu'enfant, j'ai eu beaucoup de chance, Raoul Ruiz, Serge Danet, mais je continue aujourd'hui à rencontrer des gens, en général des intellectuels, parce que moi qui suis pas intellectuel, ils me fascinent, parce qu'il y a quelque chose que je maîtrise pas, et j'ai l'impression de faire partie d'un monde merveilleux, d'intelligence, de référence, de culture, et ces gens-là, j'ai de la chance encore qui m'arrivent.
Mais c'est dans ce sens-là. Il vous arrive plutôt que vous n'allez vers eux. Tout comme à 10 ans, ça vous arrive dessus, le cinéma.
Bah oui, à 10 ans, a fortiori, ça m'est arrivé dessus. Alors après, je sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui se passe au-delà du réel, mais, et je pense que si en vrai, mais bon, c'est pas à moi de le dire là, mais ça m'arrive parce que, oui, après, ce que je disais, c'est-à-dire, j'ai peut-être l'intuition d'aller vers les gens ou vers les situations qui vont provoquer ce que je recherche.
Et ça, on peut le faire dès 10 ans? J'insiste sur cet âge parce que vous parlez de l'enfance.
Oui, parce que c'est une intuition. Quand on a 10 ans, on a autant d'intuition que quand on en a 40.
Eh oui.
Donc après, il faut avoir de la chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai quand même été dans des situations enfant très tôt qui auraient pu mal tourner. Et moi, j'aurais pu mal tourner, j'aurais pu devenir fou ou drogué ou désespéré. Et les gens que j'ai rencontrés vers lesquels je suis allé m'ont au contraire donné le goût de la vie.
Par le cinéma.
Par les idées.
Qui sont liées.
Non, les idées en général, surtout, quoi.
Mais est-ce que c'est lié, les idées et le cinéma?
Le cinéma, c'est une petite partie de la création et de la vie. Le cinéma, finalement, c'est de moins en moins mon sujet, disons. J'habite le cinéma, comme disait Danet, et c'est mon travail, c'est ma raison sociale, c'est avec ça que je gagne ma vie, c'est au travers de ça que j'ai eu un accès aux idées. Mais il y a quand même plus grand que le cinéma, je suis bien obligé de le reconnaître.
Vous avez un peu l'impression de vous excuser en disant ça.
Non, c'est pas ça, c'est que je veux pas qu'on pense que je suis désabusé ou moins motivé. Au contraire, je me sens même plus à l'aise parce que je me dis, tiens, ce domaine-là, je le maîtrise. Ça m'empêche pas d'aller voir ailleurs et d'essayer de comprendre les choses avec d'autres outils que le cinéma. Mais avec toutes ces années, tous les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai un peu l'impression d'avoir une petite expertise de ce médium.
Et donc de dire que ça n'a de sens que si c'est en constellation avec le reste.
Oui, parce que le vrai problème, j'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, c'est la narration. Le cinéma, c'est une façon de narrer, mais il y en a plein d'autres qui m'intéressent aujourd'hui beaucoup.
Comme ?
Moi, je sais pas. Plein de sujets, plein de la théologie en ce moment, c'est ce qui m'intéresse. Mais
manière dont on y raconte les histoires, par exemple.
Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est comment une histoire est racontée, par qui, avec quels moyens et à quel moment. Voilà, et c'est ça qui est le fondement, je pense, de la compréhension du monde. Alors le cinéma est très fort pour ça, puisque c'est quand même son fondement, mais il y a d'autres façons de raconter des histoires.
Peut-être qu'on touche le nerf de la guerre, si c'est ça qui vous intéresse. Finalement, s'intéresser à la théologie, c'est s'intéresser au tout début du début de quand on racontait des histoires.
Ou tout maintenant. Il n'y a pas que le début dans la théologie, il y a aussi comment ça continue à être raconté. On ne va pas faire un truc là-dessus, mais je veux dire, moi, il y a des histoires dans les textes qu'on me raconte différemment aujourd'hui ou que je comprends différemment aujourd'hui parce qu'elles ont tellement de niveaux. C'est comme un grand film, un film de Ruiz. Pour revenir à Raoul, que j'admire énormément, je le vois un jour, je reçois tel message, je le vois 10 ans plus tard, c'est un autre message, 3 jours plus tard, c'est encore un autre message. Donc c'est ça la richesse des choses faites par des gens brillantissimes qui ont envie vraiment de transmettre quelque chose, c'est qu'ils arrivent à en donner... à fabriquer un objet qui a beaucoup de niveaux.
Enfin, ça veut dire aussi qu'en face, il y a de l'épaisseur. Si vous êtes capable de regarder un objet 10 ans, 3 ans, 4 jours après, différemment, on peut considérer que l'objet en tant que tel, il est très épais,
oui.
Qu'il a plein de richesses en lui,
oui.
Mais ça veut dire qu'en face, on est aussi capable d'être atteint à un autre endroit de soi-même.
Oui, mais tout le monde est capable.
Quelle bonne nouvelle.
Non, mais vous le savez, tout le monde le sait, il suffit de se concentrer un petit peu et d'avoir envie. Si on n'est pas trop happé par des choses qui sont faites pour vous rabaisser, en vrai.
Il faut qu'on entende Raoul Ruiz, il va expliquer une sorte d'exercice pour comédienne ou pour comédien, un cas qu'il soumet à l'exercice de jeu.
Je suis en train de dîner, je dois dîner avec quelqu'un et dans l'après-midi, mon père est mort. Alors, je dois dîner, mais il y a les poids du chagrin. Alors, comment on donne les poids du chagrin? Donc, normalement, il y a deux cas. Soit le père du comédien est mort vraiment et alors il doit faire appel à ça, ou il n'est pas mort. S'il est mort, c'est peut-être plus compliqué parce que, en fait, la mort du père, c'est une chose complexe. Il n'y a pas que les chagrins. Il y a les soulagements. Il y a même la joie. Il y a une quantité, un bagage gigantesque des problèmes pratiques qui vont polluer les sentiments et les rendre difficiles à exprimer. Si le père n'est pas mort, il va mourir un jour. Et alors, l'imagination de cette mort est plus pure, en quelque sorte. Donc, à l'extrême, si le père du comédien est mort, il faut mieux qu'il pense qu'il est vivant et qu'un jour il va mourir. Alors, il faut privilégier plutôt et les faits imaginaires. Et l'imaginaire est un peu parallèle au fait réel qui nous provoque l'émotion que cherchait Stanislavski.
Ça pourrait paraître alambiqué, c'est d'une clarté hallucinante. La voix de Raoul Ruiz, Melville Poupeau, qui suggère un exercice.
En fait, il a raison, parce que, en tant que comédien, j'ai pas tout de suite compris tout ça. Quand j'étais petit, je faisais appel un peu en apprenti acteur à des souvenirs personnels où je projetais sur ma vie privée, disons, enfin, j'allais chercher dans ma vie privée des émotions que je mettais au service de la scène ou de mon personnage. Et j'ai compris avec le temps que finalement, quand le personnage était bien écrit et qu'on s'y installait bien et qu'on avait travaillé son rôle, en fait, c'était les émotions du personnage qu'on vivait et c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, en fait, de se laisser prendre par les émotions que vit le personnage. Et c'est là que le vrai métier d'acteur intervient. Enfin, il y a plein de techniques, hein. Je dis pas que c'est pas une loi, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche pour moi.
Mais ce qui est assez
beau. D'où l'intérêt de choisir des bons films et des
bons réalisateurs. Voilà. Ou tristes. Ce qui est assez beau, c'est qu'il dit qu'il y a une forme de pureté dans l'imaginaire. C'est qu'en fait, on est embarrassé par la vraie vie quand on est dans le réel, que c'est trop confus et que finalement, en allant chercher le fait imaginaire, on va atteindre une forme de clarté, de pureté, de ligne.
Oui, bah ça, c'est du pur Raoul Ruiz, hein. Ces films témoignent de ce genre d'idée, mais. C'est-à-dire que Ruiz, il m'a aussi peut-être transmis ça, c'est que le réel était... Le seul intérêt de ce qu'on appelle le réel, c'était la rigolade. C'était de prendre les choses de façon humoristique et de voir le côté dérisoire de ce que les gens pensent être le réel, de ces situations absurdes. Effectivement, on perd son père, il y a mille choses qui se passent dans la tête de quelqu'un qui perd son père, enfin voilà, donc c'est vraiment cette distance par rapport au réel et de prendre cette matière-là pour en fait accéder au vrai monde, celui des idées, et peut-être de l'imaginaire. Oui.
C'est étonnant parce que finalement, que ce soit Danet qu'on entendait au départ ou Raoul Ruiz, vous les ramenez sur ce terrain-là, d'une forme, peut-être pas d'humour, mais de distance aux choses, de grande souplesse en fait, ouais, avec l'existence.
Exactement. Mais Raoul, sur son lit de mort, il faisait des blagues, j'étais fasciné, je suis allé le voir... C'était un jour très triste, évidemment, mais il me faisait des blagues. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Il voyait ça encore comme une espèce de fable, une ironie.
Mais c'est pas une défense.
Peut-être aussi, bien sûr, mais vaut mieux ça comme défense que de plonger dans les abysses de la dépression. Et alors moi, je suis pas Raoul Ruiz, malheureusement, j'ai pas la même culture, mais j'y travaille.
C'est indiscret de vous demander comment ? Un peu.
Oui.
Oui, un petit peu. On va revenir et on va raconter, puisque vous aimez bien raconter les histoires, Melville Poupeau, votre rencontre avec Raoul Ruiz, vous n'êtes pas lassé de la raconter ?
Non, je ne suis pas un grand raconteur d'histoires, mais comment j'ai rencontré ?
Oui, quand même, il faut dire.
J'en ai aucun souvenir, alors là, l'histoire s'arrête là pour moi, mais lui, il la racontait beaucoup mieux que moi. Il disait que ma mère, qui était attachée de presse, Chantal Poupeau, s'occupait d'un film de Raoul. Et un jour, où après l'école, j'avais pas de babysitter, m'avait emmené à une conférence que Raoul donnait pour des journalistes. Et tous les gens dans l'audience étaient endormis, parce que Raoul avait ce pouvoir un peu d'hypnotiser les gens et de les bercer jusqu'à ce qu'ils s'endorment et qu'éventuellement ils rêvent. Et moi, j'étais le seul à être resté éveillé au milieu de tous ces journalistes endormis. Et finalement, il a fini par me raconter l'histoire à moi. Et à la fin, il m'a dit « Est-ce que tu veux partir au Portugal ?» faire un rôle dans un film.
Parce qu'il vous a trouvé bien réveillé, en fait, comme enfant.
Possible. Je résistais à son pouvoir. Et donc, voilà, j'y suis allé. Après, il m'a aussi raconté que quelques temps avant, il avait trouvé sur un marché un petit costume de marin, taille enfant, et qu'il cherchait le petit garçon qui allait rentrer dans ce costume pour en faire un personnage de film.
Comme Cendrillon.
Ah, les chaussures de verre. Mm-hmm. Peut-être. Mm-hmm. Ben voilà, ça, c'est les histoires de Raoul. Moi, j'en ai pas trop de souvenirs, malheureusement.
Mais vous utilisez souvent ce mot-là pour parler de Raoul. En tout cas, ça arrive, Ruiz, pour parler de Raoul Ruiz, ça arrive dans vos histoires. Le mot bercer, avec le côté évidemment très maternant des premiers gestes, mais aussi une forme de laisser aller. C'est-à-dire se laisser bercer, s'abandonner au cinéma de quelqu'un.
Parce que ça, c'est la technique ruizienne, c'est ce qu'il cherchait chez ses acteurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de psychologie ou de direction conventionnelle, c'était pour parler d'une scène ou d'un ressort dramatique du film, il allait vous parler des arbres, d'autres choses. Il n'avait pas envie de rentrer du tout, il n'avait pas envie de voir un acteur en train de se prendre la tête ou donc c'était une autre technique. Et quand on voit ces films, on ressent le même sortilège dans un sens. Il disait d'ailleurs très bien, il le disait lui-même, de tel film, c'est bien les 10 premières minutes. Après, vous pouvez faire une sieste, vous vous réveillez
pendant,
vous vous réveillez une demi-heure plus tard. Là, il y a un moment qui est intéressant, puis vous pouvez redormir. Et puis d'ailleurs, ces films agissent comme ça aussi. Même et moi, d'ailleurs, personnellement, je comprends puisque j'adore dormir pendant les films. Et certains des films que je préfère, je les ai quasiment pas vus puisque j'ai dormi tout du long. Mais j'en garde une espèce d'impression peut-être plus profonde que si j'avais été attentif et captivé par un divertissement ou par un truc un peu lourdingue. J'aime bien cette faculté de, que le cinéma provoque de rêver.
Je voudrais faire à ce moment-là une dédicace très personnelle au film de Bellatar. Petite dédicace.
Ah, c'est bon pour piocher ça. On pionce bien là-dedans.
Melville Poupeau, vous dites que ça a été fondateur à bien des égards de tourner avec Raoul Ruiz à cet âge-là et d'être ce qu'on appelle cet enfant acteur. C'est d'ailleurs l'un des fils rouges de la programmation des films que vous proposez au Forum des Images. Là encore, en essayant d'être pas trop théorique, même si vous vous proposerez même des discussions avec Sarah Chiche et donc pour peut-être l'être davantage. Qu'est-ce qui fait que c'est fondateur? Qu'est-ce qui fait que c'est un moule ou un costume dans lequel vous êtes encore 25 ans plus tard, 35 ans plus tard?
De quoi?
L'enfant. D'avoir été l'enfant comédien.
Bah, parce que je me suis rendu compte en fait que c'était assez particulier et unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants acteurs qui continuent à avoir une carrière et une carrière assez régulière. C'est vrai que moi j'ai tourné beaucoup de films depuis cet âge-là sans vraiment grand creux. Il y a des années où je tournais pas et puis j'ai jamais connu d'énormes succès, donc ça a fait que j'ai quand même tranquillement continué mon chemin.
Ça c'était bien.
Quoi?
De pas trop connaître le gros succès.
Bah je peux pas vous dire, je l'ai toujours pas connu. Peut-être c'est génial et je suis passé à côté de ma vie, mais donc voilà, c'était cette particularité de se dire pourquoi les enfants qui ont des rôles marquants, jeunes et des expériences dans le cinéma ont du mal à devenir professionnels, quoi. Il y en a quelques-uns, évidemment. Aux États-Unis, c'est plus commun. Les enfants commencent très jeunes et ils font des claquettes et des tours de magie, des trucs comme ça. En France, c'est plus rare. Et en me creusant la tête, j'en vois pas beaucoup. Magimel, Sophie Marceau, il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Et donc voilà, c'était ça le sujet de ces discussions, notamment avec Sarah Chiche, qui est une psychanalyste. Et le choix que j'ai eu, en collaboration avec le Forum des Images, de choisir des films dans lesquels les enfants ont le rôle principal et délivrent des performances qui sont dignes des plus grands acteurs, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont conscients de jouer la comédie? Qu'est-ce qu'ils se racontent de leur personnage? C'est des thématiques qui m'intéressent.
Parce que, par exemple, si on prend un court-métrage que vous avez réalisé, vous, enfant encore, et où on vous voit interpréter une sorte de cow-boy dans des sortes de combles d'une maison, on pourrait dire ça comme ça.
Ah, je l'ai oublié celui-là, mais c'est possible.
On a l'impression que jouer la comédie est quelque chose qui ne pose pas question. Qu'il y a une sorte d'évidence d'être dans le costume de quelqu'un d'autre, de commander un whisky, de fumer une cigarette, de tenir un flingue, pousser la porte d'un...
Bah c'est des jeux d'enfants, quand on regarde les enfants qui jouent, ils se racontent des histoires, et des fois ils ont des petites marionnettes, c'est pas eux la marionnette, c'est des petits personnages, des trucs comme ça, puis ils sont capables de faire tous les rôles. Moi, je jouais beaucoup tout seul, j'ai joué beaucoup avec mon frère, mais après, continué à jouer tout seul. Et je continue à jouer comme ça. Et c'est un peu ma conception aussi de ce qu'on disait de la société. C'est-à-dire que c'est quand même un terrain où les gens jouent des rôles. Le problème, c'est qu'ils oublient qu'ils sont en train de jouer. Et des fois, ils se prennent très au sérieux. Et c'est là que les gens deviennent insupportables et que je les fuis. C'est quand les gens oublient. Raoul disait, lui, que les gens sont souvent des fantômes, mais ils ont juste oublié qu'ils étaient morts. Et ils continuent à faire comme s'ils étaient vivants, alors qu'en fait, ils sont morts depuis longtemps. Lui, savait ce genre de choses. Et moi, je vois chez les gens, quand il y en a, et c'est peut-être ça l'humour dont on parlait chez Danet et Ruiz, c'est qu'il y a un moment où il faut arrêter de penser qu'on est vivant et en train de, pas de jouer, mais d'être vraiment soi dans un cadre et d'être, tu vois ce que je veux dire, l'esprit de sérieux, quoi. Ça, c'est quelque chose que moi, je supporte pas.
Donc, on a qu'à, avec tout le reste, dégager aussi l'esprit de sérieux.
Bah, allons au bistrot, boire un coup, c'est l'heure, hein. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Melville Poupeau.
Sounds so sweet and clear, but you're not real. Le cinéma est tellement mieux que la vie, quoi, que on se nourrit, on croit des fois qu'on se nourrit de la vie, en fait on se nourrit vachement de cinéma. Je sais pas. Enfin, il me semble que le cinéma, c'est, pour moi, c'est plus une manière de penser, une manière de poser des problèmes. C'est un très très bon outil d'analyse. Donc je saurais pas dire si j'ai une écriture ou non, mais c'est, si je me pose une question que je n'arrive pas à résoudre dans la vie, si j'arrive, si je me la pose au cinéma, le cinéma, le film va à peu près me donner la réponse. Voilà. Donc en fait, après ça, il suffit d'utiliser, de prendre très très sérieusement le cinéma au pied de la lettre et de l'utiliser plus comme un instrument d'enquête que comme pour avoir un style ou un résultat. Ou le style, je trouvais ça un peu bourgeois. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour les différents films que j'ai faits. À chaque fois, je me suis rendu compte en les faisant que peu à peu, je pouvais formaliser en disant, ben voilà, j'ai un problème dont j'ai pas la solution et les solutions que je peux trouver ou dans la vie ou dans la littérature, tout ça m'intéresse pas. Et le cinéma, ça me semble assez épatant pour ça.
C'était il y a un petit peu plus de 20 ans à la vôtre. Arnaud Desplechin, 1998, dans l'émission Le Bon Plaisir. Et en fait, une des premières choses avant qu'on s'attarde sur ce qu'il vient de dire, Melville Poupeau, c'est sa voix. Je trouve qu'il a une voix quand même un petit peu d'il y a 20 ans.
Il choisit des mots épatants, tout ça, ouais.
Et en même temps, on reconnaît la voix d'Arnaud Desplechin qui était à ce micro-là il n'y a pas très très longtemps. Et je me suis fait la remarque en préparant cette émission sur la rétrospective qu'il y avait quelque chose de très important dans votre voix. Mais vraiment très important.
J'ai du mal à la maîtriser. J'ai découvert en travaillant que c'était l'outil peut-être numéro un pour les acteurs, quoi. Et il faut une grande maîtrise et une grande expérience pour en arriver à maîtriser sa voix et à lui donner les couleurs qu'on veut. Et c'est un instrument qui est dur à manipuler.
Et pourquoi vous dites que c'est difficile à maîtriser quand vous dites malheureusement?
Malheureusement, parce que c'est les grands acteurs maîtrisent très bien leur voix. Quand t'écoutes Michel Piccoli, Mastroianni, Marlon Brando, Jean-Pierre Léo, je sais pas, Alain Delon. C'est des gens qui maîtrisent la voix. Et c'est ce qui est difficile. Moi, par exemple, j'ai essayé de chanter plusieurs fois et j'y arrive toujours pas. Je suis très mal à l'aise en tant que chanteur. C'est qu'il y a un truc du souffle. Je sais pas, c'est un instrument qui est... Enfin, c'est une expression de soi qui est la finalité, en fait. Enfin, qui est vraiment le plus important et le plus difficile.
Et le reste, vous maîtrisez? Ça va mieux, quoi. C'est plus facile que la voix.
Mais la voix, je commence à... J'essaye, hein.
Moi, je pense que c'est vraiment... c'est marrant. À un moment donné, je me suis dit... il pourrait n'y avoir que ça.
D'où?
Eh ben, en regardant... Alors, c'était des films un peu plus anciens, mais il pourrait presque... C'est comme s'il n'y avait que la voix qui flottait. Je crois que c'était dans Le Temps retrouvé, de Ruiz.
Ma voix à moi?
Ouais.
Je vous remercie, c'est un beau compliment, parce que c'est souvent ma voix qui me... comme beaucoup de gens, d'ailleurs, les gens, tu les enregistres et tu leur fais écouter leur voix, ils disent « Ah, ma voix est horrible ».
Alors, c'est peut-être parce que ça persiste très fort, parce que c'est très là, la voix, en fait. C'est peut-être pour ça que je me disais ça.
Oui. Non, mais maintenant, ça va mieux.
Alors, Desplechin, il disait « Quand il y a une question à laquelle la vie ne veut pas très bien répondre, ou c'est compliqué, je fais un film, et puis, normalement, la réponse vient avec le film ». Est-ce que vous diriez pareil en tant que comédien, Melville Poupeau, et ou en tant que spectateur, et non. ou en tant que personne qui en fait aussi de temps en temps des
non.
films?
Non, en tant que comédien, non, parce que les questions, c'est pas moi qui les pose. En tant que comédien, je viens vraiment au dernier moment pour incarner le personnage. Je suis choisi par le metteur en scène pour être un des éléments de son dispositif, mais je veux dire...
C'est pas vos questions, donc ce sera pas pour vous les réponses.
Non, après, je choisis des films qui posent des questions qui résonnent avec mes questions à moi. Donc c'est sûr que je participe quand même à cette recherche dont parle Arnaud en jouant dans le film. Et puis j'essaye d'accompagner la recherche du metteur en scène le plus loin possible pour qu'il soit content et qu'il ait peut-être sa réponse à l'arrivée. Après, en tant que spectateur, les questions, moi je m'en pose tellement... peut-être, oui. Je me rends pas trop compte. Est-ce que le cinéma est l'outil idéal pour répondre aux questions? Je veux pas revenir à Ruiz, mais quand même, je vais y revenir. Lui, par exemple, son trip, c'était les mathématiques. Enfin, un de ses trips, c'était les mathématiques. Et il avait beaucoup d'amis. Enfin, il avait un ami, notamment, paix à son âme, Emilio Del Solar, qui était un ami chilien, qui était mathématicien, avec qui il passait beaucoup de temps à discuter mathématiques. Et certains problèmes mathématiques qui fascinait Raoul, il essayait de les mettre en image dans son prochain film. Donc il y a certains moments des films de Raoul que personne ne comprend, sauf certains mathématiciens, parce qu'ils voient bien que il y a dans cette scène ou dans ce montage, enfin en tout cas dans cette fabrication, dans cette construction, un problème mathématique qui est exposé en image, avec des personnages, des dialogues, enfin voilà, moi j'y connais rien en mathématiques, mais enfin c'est comme ça que j'ai compris les choses. Donc oui, le cinéma permet énormément de choses.
Mais activement, vous n'irez pas mettre un DVD ou pousser la porte d'une salle de cinéma pour comprendre quelque chose, pour peut-être vous laisser faire et éventuellement trouver une réponse.
Oui, mais enfin c'est pas pour ça que j'irai au cinéma.
Oui voilà, c'est ça, vous ne le ferez pas activement.
Non.
Genre quelle drôle d'idée quoi.
Non, c'est pas une drôle d'idée. Non, c'est je comprends très bien la démarche, mais c'est pas la mienne. Moi, je vais au Cinoche. Je regarde. Moi, j'aime bien quand les films. C'est peut-être mon côté passif, mais j'aime bien quand les films arrivent de façon inattendue, bon, par hasard. Je zappe ou alors. Quelqu'un m'emmène voir un film, ou je tombe sur un DVD, ou à la télé, sur une diffusion. Voilà, je vais pas au cinéma de façon volontaire, et je l'ai fait, ça m'est arrivé. Si aujourd'hui je me pose des questions, j'irai plutôt vers un bouquin que vers un film. J'avoue que certaines lectures me procurent une sensation de compréhension plus forte que le cinéma. Alors je continue à regarder des films qui me procurent des sensations très fortes et tout ça, mais aujourd'hui, personnellement, je dois dire que c'est plus dans les livres que je trouve des réponses à mes questions.
Ça va un peu à l'encontre de faire une programmation au Forum des images, c'est assez volontariste comme rapport au cinéma.
Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait, on m'a appelé, on m'a dit est-ce qu'on vous voulez qu'on...
Mais si vous avez dit oui, c'est que vous y trouvez du sens.
Bien sûr, mais c'est pas antinomique avec ce que j'ai dit, hein. Moi j'adore les films que j'ai faits, j'étais content de les présenter, et puis c'est aussi le devoir d'un acteur ou de n'importe qui fait un métier qui le passionne, c'est d'entretenir aussi les archives, enfin le passé, de faire en sorte que les gens soient au courant de votre travail, de vos recherches éventuellement, et de partager ces trucs-là. Sinon, ça sert à rien. On n'est même pas acteur ou on fait rien. On reste chez soi, on fait un boulot de merde et on attend que ça passe. Moi, non, je suis heureux quand on m'a demandé est-ce que tu veux bien qu'on fasse une rétrospective. J'ai dit oui, bah carrément, je suis honoré et j'ai même dit ça m'intéresse même de participer un peu à l'agencement du programme pour qu'il y ait un sens, que moi je trouve ça intéressant et que je me dise que les gens pourraient trouver ça intéressant et que les films soient mis en valeur et voilà, faire un minimum de travail là-dessus, quoi.
Oui, c'est marrant que vous parliez d'archives parce que par exemple, dans le livre dont je citais un extrait en introduction, Quel est mon nom? Il y a plein de facsimilés, il y a des cartes postales, il y a des photographies, il y a des petits bouts de carnet, il y a même des zooms sur des copies d'italiens mm-hmm. au collège ou au lycée. Mm-hmm. Comme si vous aviez un goût pour ça, Melville Poupeau.
Mais je l'ai et ce livre m'a totalement libéré. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment pour ça que je l'ai fait, c'est que j'accumulais tellement de choses, des petits bouts de rien du tout. Je tiens ça de ma grand-mère qui gardait des petits bouts de carton pour faire la liste des courses, des élastiques, des bouchons, de n'importe quoi dans un tiroir. Et je m'étais toujours demandé, mais c'est ça, à quoi ce tiroir? Pourquoi garder ces trucs pareils? Et j'avais fini par moi-même accumuler des choses. Bon, il y avait des scénarios, des photos, des moments, des souvenirs aussi, des trucs immatériaux. Et je m'étais dit, à un moment, tu peux pas continuer. C'est comme si j'avais vidé ce tiroir et j'avais jeté le contenu dans un bouquin. Alors je suis content que ce soit un bouquin parce que ça reste et que si ça peut intéresser les gens, tant mieux. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir vidé mon tiroir.
Et vous ne gardez
avec ce
plus
bouquin. Beaucoup moins. Beaucoup moins.
Ça faisait quoi, par exemple, de retrouver les petites cartes postales de Serge Danet qui vous donnaient des nouvelles d'un crapaud que vous cherchiez?
C'est une grande chance. Ça me touche toujours. Son humour, encore, qui transparaît dans ses cartes postales.
Tellement génial. Faut un peu raconter cette histoire, alors. C'est quoi cette histoire de crapaud?
J'étais jeune, mais pour me divertir, Danet m'avait raconté cette histoire du crapaud. On était dans un festival tous les deux et on passait beaucoup de temps ensemble à discuter. Et moi, je l'écoutais, j'étais un peu fasciné par ce personnage charmant et très très intelligent, mais plein d'humour. Et il avait inventé ce personnage du crapaud qui était une espèce de type un peu visqueux, dégueu, genre vraiment le cinéphile caricatural avec les pellicules, le sac plastique, l'impair, le cheveu gras, le mec glauque.
Amis de la Cinémathèque de Paris, on vous embrasse.
Ouais, moi j'adore les cinéphiles. À une époque, je voulais même faire une collection de cinéphiles. Et donc voilà, ce type laissait des traces derrière lui dans les salles de cinéma, dans les restaurants où il avait mangé.
La baffe, quoi.
un peu de bave, de crapaud, voilà. Donc et voilà. Et après, en m'écrivant ces cartes postales, il était parti à la recherche de ce crapaud mythologique, si tu veux. Puis au bout d'un moment, il s'était lui-même transformé en crapaud. Il disait, mais en fait, c'est moi le crapaud. Ou enfin bref, c'était tout un jeu autour de ce personnage.
Quand même, ce n'est pas rien. Vous dites, c'est fondateur d'avoir été enfant comédien, mais à vous écouter, j'ai l'impression que ce qui est fondateur, c'est d'avoir croisé l'humour et la souplesse d'existence de Danet, de Raoul Ruiz, et ou de Marguerite Duras, et ou de plein d'autres gens. On peut dire humour et souplesse pour Duras aussi ou
pas ? Bah, je la connaissais trop peu, j'étais vraiment petit. C'était juste cette... je savais même pas que c'était Marguerite Duras, j'étais beaucoup trop jeune.
Oui, mais c'était elle.
Oui, c'était elle.
Peu importe que vous ne le sachiez pas.
Non, parce qu'elle dégageait quand même quelque chose que même un enfant était capable de ressentir, que ma mère m'en a parlé toujours avec beaucoup d'admiration parce que elle la connaissait bien, donc j'ai senti que pour ma mère c'était quelqu'un d'important, et que voilà, c'est la vibration des gens, quoi.
Oui, donc du coup, quand
mais
même...
Mais je peux pas dire qu'elle m'ait transmis quoi que ce soit, elle. Après, j'ai lu ses livres. Peut-être, peut-être. Une recette de spaghettis.
Ou de soupe aux poireaux, c'est ça, hein, dans ouais. Écrire. Ça, c'est la recette de la soupe aux poireaux.
Ah ouais, moi, c'était des spaghettis, je me souviens.
Elle faisait des gros plats de spaghettis pour
ouais,
vous.
Très bon.
C'est ça quand même une densité, d'avoir croisé tant de vibrations.
Non, c'est ça la chance d'avoir grandi dans un milieu artistique dans ces années-là, où il y avait une insouciance, où je sentais que faire des films, c'était une grande fête. Ma mère m'a toujours raconté les tournages de Duras, et même les gens qui ont participé à ces moments-là voyaient ça comme une espèce d'épiphanie. C'est pas un tournage avec la feuille de service telle heure, le producteur qui ronchonne, les techniciens qui en ont marre, qui veulent rentrer. Il n'y a pas le droit de faire de fête parce que si les gens sont trop bourrés et qu'ils rentrent après. Bref, il y avait un tournage de Duras et je pense un tournage de Ruiz ou de Jean à cette époque-là. C'était autre chose qu'un tournage aujourd'hui, voilà, tout simplement.
Si le cinéma et si faire des films, c'est tellement une fête, pourquoi n'en avez-vous pas fait plus, vous, derrière la caméra ? Vous en avez fait beaucoup.
Oui, derrière ma petite caméra vidéo. Et j'adorais ça. Et j'ai la chance qu'ils soient montrés un petit peu aux formes des images et qu'ils existent en DVD. Donc c'était une bonne chose. Après, moi, me coltiner tout le parcours de production.
Trop lourd.
Les financiers, voilà. Et puis j'ai la chance en tant qu'acteur de travailler avec des bons metteurs en scène qui, eux, aiment faire ça, puisque ça fait aussi partie du métier de metteur en scène, qui n'est pas mon métier à moi, et c'est pour ça que j'aime pas le faire. Donc, dans le fond, peut-être un jour, je réussirai ou j'aurai plus la motivation pour aller jusqu'au bout de ce parcours très long. Pour l'instant, je me contente d'essayer d'être acteur.
Donc, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, si vous habitez vraiment dans le cinéma, vous habitez plutôt à la bonne place pour vous, Melville Poupeau.
Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis très, très satisfait, j'avoue.
C'est super.
Merci de m'avoir invité, vraiment.
C'est super.
Je pars heureux.
Alors, si vous voulez, juste avant qu'on écoute Xavier Dolan, je peux faire un petit rappel aux auditrices, aux éditeurs. Ont été congédiés jusqu'à maintenant la vérité, la paix, la société, l'identité et l'esprit de sérieux.
Eh ben voilà. Il ne va plus nous rester grand-chose.
Je pense qu'il fallait que je fasse une proportion. 40% du dialogue qui me vient sur le plateau. Quand les acteurs sont en train de tourner, moi, je suis à côté d'eux, là, mais collé à eux, vraiment. Je suis caché en dessous de la caméra ou derrière, le plus près possible. Je suis pas assis à une chaise là, dans la chambre d'à côté avec la script et avec tous les techniciens. Puis je leur crie des choses comme ça à travers la... Je suis à côté d'eux. Des fois même, je leur prends la main. Et puis, si je regarde un écran avec une retransmission de la scène et je vois ce qui se passe au fur et à mesure, puis je me dis, tiens, là, ici, ben j'imagine... Moi, si j'étais l'acteur, présentement, c'est ça la réplique qui me viendrait. Mais je suis l'acteur, le réalisateur, le scénariste, en même temps, il faut que je prenne toutes ces décisions-là en même temps quand je vois l'acteur jouer. Puis là, je lui dis. Je fais juste lui dire maintenant, après un certain nombre de jours, ils savent ce que ça veut dire. Je fais juste leur dire une réplique, ils la répètent. Regarde par la fenêtre. Ouvre ta bouche pour dire la prochaine réplique, mais referme-la. Elle n'est pas prête à le dire. Il faut qu'elle y pense encore. OK, vas-y. Tout est une... De deux choses l'une, tout est une peinture et tout est aussi, je pense, une partition. Chaque note doit arriver au bon moment. Il y a un rythme, il y a un rythme au silence aussi. Un silence peut pas durer pas assez longtemps. Un silence peut pas durer trop longtemps. Il faut qu'il dure le bon nombre juste le bon temps. Et ça, ça s'apprend. On le sait jamais. Je sais même pas si je l'ai encore appris. Je l'apprends de plus en plus, en tout cas.
Lui aussi, il a l'air plutôt content. 2014, c'est une archive de Xavier Dolan, Melville Poupeau. 2014, c'est donc 2 ans après la sortie de Lawrence Anyways. Il était là au micro à l'occasion de la sortie de son film Mommy. Vous disiez, à l'époque, dans les années 70, Raoul Ruiz, compagnie, c'était la fête, le tournage. Lui, quand on l'écoute, on se dit que c'est un beau bazar, quand même. On l'imagine sous la table, en train de susurrer des choses possibles à dire.
Il ne pas, il gueule carrément.
Ah bon?
Ouais. Non, mais j'ai énormément d'admiration pour Xavier Dolan. Quand il parle là, je suis toujours d'accord avec lui et je trouve qu'il a, enfin, moi, j'ai travaillé avec lui, Lawrence Anyways, il avait 21 ans au début du tournage. Et j'ai revu le film hier pour l'inauguration de
la rétrospective
au Forum des Images. Et je me suis encore dit, mais comment à 21 ans on peut avoir emmagasiné tant d'expériences, avoir autant d'idées, d'intuitions sur la vie, sur les comportements humains, des parents, des enfants, des grands-parents, des homosexuels, des hétéros, des bourgeois, des,
je veux dire. Et sur l'amour. Et comment à 21 ans on peut avoir cette pensée de l'amour?
Et pareil sur le cinéma, comment à 21 ans on peut savoir exactement que c'est tel focal? Parce que lui, c'est pas un metteur en scène qui dit au chef-op un cadre plus ou moins comme ça, c'est technique. Il y a, les bons metteurs en scène en général sont aussi des bons techniciens. Il sait précisément quel cadre il veut, à quelle distance, quel format il va utiliser pour tel film, enfin bon, tout quoi. Donc c'était un miracle. Alors maintenant, il a plus 21 ans, il a 30 ans, il y en a d'autres des metteurs en scène qui à 30 ans font des films qui sont en pleine possession du cinéma, mais j'avoue avoir vécu un moment particulier.
Et c'était la fête. Et c'était l'espèce de bazar qu'il raconte là.
C'était la fête pour moi de regarder ce jeune homme inspiré, à la fois comme une espèce d'enfant capricieux, surdoué, génial, et en même temps très tendre, tout le monde l'adorait, tout le monde voulait le porter, et qu'il arrive à obtenir le résultat le mieux qu'il avait en tête. Enfin, il y avait un moment magique. Alors c'était la fête, c'était pas la fête comme on dit la fête, mais c'était une épiphanie, un truc vraiment magique.
Là aussi, c'est quelque chose qui vous arrive dessus au bon moment, le rôle de Lawrence Anyways.
Ah oui, carrément, ouais.
Pourquoi?
Bah parce que j'étais mûr, que finalement je correspondais au rôle, que j'avais assez d'expérience pour assurer face à ce Xavier Dolan qui était quand même une espèce de bombe d'électrons libres, voilà, surpuissant, les nuances qu'il y a dans le personnage, d'assumer d'avoir cette tête pas possible par certains moments, le rouge à lèvres, les talons, pas de problème avec ça, prêt. Je sais pas comment dire. C'était un concours de circonstances miraculeux parce qu'en plus à la base c'était pas moi qui devais faire le rôle. Je suis arrivé au dernier moment et dans un environnement pas facile parce que moi je connaissais pas le Québec. C'est quand même une autre culture. Il y a rien à voir avec la France. Il parle français, mais même il parle français d'une toute autre façon. Enfin, je veux dire, j'étais quand même dans un autre trip. Xavier avec son équipe, ses actrices, Suzanne Clément pour qui il avait écrit le film en fait. Il a écrit le film pour cette actrice-là. Moi qui arrive pour suppléer. Donc je suis rentré très vite dedans et c'était magique.
Alors pour revenir à ce que disait Desplechin tout à l'heure, à savoir on fait des films pour comprendre des choses, si on vous écoute quand même, vous sortez de Lawrence Anyways ou d'autres films, peut-être pas en ayant compris des choses, mais en ayant été transformé, parce qu'après les épiphanies, on est transformé.
Mmh. Transfiguré.
Pardon.
Ça m'est arrivé.
Je suis pas baptisé.
Moi non plus. Ça m'est arrivé, j'ai eu cette expérience un petit peu avec Le temps qui reste de François Ozon, qui est un film que j'aime beaucoup, l'histoire d'un homme jeune qui va mourir, donc qui se prépare à cette mort, et à la fin du tournage, j'ai eu l'impression d'avoir passé une étape, pareil un peu avec le film de Xavier, des films où quand on les a terminés, après le destin du film c'est autre chose, qui marche pas, qui reste, qui ne reste pas. Mais j'en ai eu d'autres, même des films qui sont pas du tout restés. J'ai fait un film en Bulgarie que j'aime beaucoup de Kamen Kalev qui s'appelle Tête baissée que personne n'a vu, mais qui pour moi était une espèce d'aventure aussi un peu de transformation. Voilà. En fait, c'est les grands rôles, ça vous transforme, oui, c'est sûr.
Oui,
après, faut avoir envie d'être transformé. C'est peut-être aussi pour ça que je suis en permanente évolution. C'est parce que j'attends d'être encore transformé, quoi.
Oui, d'ailleurs, au tout début de l'entretien, vous disiez « je regarde les gens et je vois les gens qui vont m'initier ». Et l'initiation, c'est ça, c'est accepter d'être profondément transformé. Donc c'est toujours ce à quoi vous aspirez, la transformation.
Alors, la transfiguration peut-être même un jour, qui sait.
J'arrive pas à prononcer ce mot-là. En fait, peut-être parce que je sais pas exactement ce que ça veut dire, alors peut-être éclairez-nous.
C'est une super transformation.
Une méga super transformation.
Méga transformation.
Une transformation superstar. Ouais. Ok.
Qu'on a, étymologiquement, on change de visage.
Mais ça ne vous est pas encore arrivé. Parce qu'en fait,
si,
avoir cette rétrospective 1000 Melville au Forum des Images, on pourrait dire, ça n'est que ça. Hmm. Plein de changements de visage.
Oui, oui. Bon, bah, ça, c'est le métier d'acteur. Hein.
Oui.
Mais ça m'est arrivé.
Vous avez déjà changé de visage.
Ouais.
Je crois que je me suis engagé dans cette voie, le métier d'acteur, avec une très très grande appréhension. J'étais toujours très rassuré par l'institution, par l'école. J'étais très un écolier, je pense même dès la maternelle, heureux. Et donc j'ai attendu pour quitter l'école le dernier moment. J'ai tout fait, j'ai multiplié les cagnes et encore en ratant encore une troisième fois normal sup, je l'ai repassé en moderne alors que j'étais déjà élève au conservatoire, alors que j'avais quand même réussi à entrer dans une autre école. Tant que j'étais à l'école, je me sentais bien. Et quand on m'a fait comprendre le métier d'acteur précisément, ça n'était plus l'école. Il y avait ce grand vide, un jeune comédien, tous les jeunes comédiens, s'il y en a qui sont là, à la sortie des écoles, il y a une sorte de grand vide tant qu'on ne vous a pas appelé. Et le métier d'acteur est un métier fondamentalement passif. Vous avez la dépendance des autres, des partenaires, d'un texte, d'un auteur, d'un metteur en scène, du public. C'est erratique dans l'année. On vous dit, on va travailler 2 mois là, mais les autres mois, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est quelque chose qui m'inquiétait fondamentalement. Donc j'ai toujours, à partir du moment où on m'a sollicité, mon premier réflexe était de dire oui, merci, mais de tomber à genoux de bonheur, parce que simplement quelqu'un avait pensé à moi. Et dans un deuxième temps, je m'intéressais à ce qu'on me demandait.
C'est assez honnête. Masterclass 2017 de Denis Podalydès au micro d'Arnaud Laporte sur France Culture. C'est étonnant, c'est finalement ce mot-là, comment il revient dans notre conversation, la passivité, que être comédien, c'est être passif. Mais c'est pas que ça, Melville Poupeau.
Non, mais c'est passif, là, il voulait dire entre les rôles. C'est-à-dire que tant que tu tournes pas, t'es pas comédien, ou que t'es pas sur scène, t'es pas comédien. Tu peux faire des exercices devant ton miroir, mais t'attends que quelqu'un t'appelle pour te proposer un rôle. C'est ça. Après, quand t'es sur le tournage, évidemment, t'es pas passif. Quoique, il y a beaucoup de moments d'attente et beaucoup de moments où tu fais rien du tout, mais t'es quand même dans ton rôle, tu travailles, c'est un travail intérieur et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui veut dire.
Et il a raison de parler de vide. Il a raison de parler d'une grande angoisse du vide qui est liée.
Bah lui, il a raison d'en parler pour les autres parce qu'il arrête pas de travailler. Toujours en train d'écrire, de mettre en scène, de jouer au théâtre, au cinéma. C'est un des acteurs qui est le plus impressionnant par sa faculté de travail.
Ouais, peut-être parce que justement, comme ça, il n'y a pas de vide.
Voilà, c'est ça.
Vous, c'est bon, c'est d'accord. Le vide, c'est d'accord entre les rôles, entre les moments où on tourne et les moments où on tourne pas.
J'ai appris à dealer avec. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre ou deux, que j'ai réalisé des petits films, que j'ai fait d'autres pratiques pour m'occuper.
Et ça fait partie de la constellation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le cinéma occupe une place dans les autres occupations.
Bah non, c'est quand même mon occupation principale, mais c'est comme tout, qu'est-ce que c'est travailler, à quel moment un acteur il travaille, bon il travaille entre action et coupé, mais il travaille aussi avant parce qu'il se prépare, il se maquille, il travaille aussi un peu avant parce qu'il apprend son texte, il travaille parce qu'il lit le scénario et qu'il commence à penser à son rôle. Enfin, c'est un travail qui est quand même très... Et c'est compliqué parce que l'intensité vraiment maximale, c'est au moment de la prise, mais c'est juste le résultat d'un travail antérieur. Donc, c'est beaucoup de travail quand même.
On n'a pas beaucoup parlé du scénario et du texte. Vous l'aimez bien, le texte ?
Alors avant, je détestais les scénarios, je trouvais que c'était vraiment l'objet le plus ingrat et effrayant, parce que déjà moche, pas forcément bien écrit, les gens mettent pas beaucoup de soin, enfin les bons metteurs en scène, si, hein. Par exemple Desplechin, scénario de Desplechin, c'est de la littérature quasiment. Xavier, son scénario, ou Romer, ou Ruiz, c'est des scénarios où il y a déjà tout dedans, tu vois. Enfin Ruiz, il n'y avait pas toujours de scénario d'ailleurs, mais... Donc ça me rebutait le scénario, et puis maintenant, non, c'est mon outil de travail, quoi. Je veux dire, j'apprends mon texte vachement à l'avance, j'ai compris que c'était une des façons que j'avais de pouvoir être un peu bon sur le tournage, c'est de maîtriser au moins le texte, voilà, oui.
De quoi c'est quoi ce petit bruit de la fin? Bah, le scénario, le texte.
Le texte, bah oui, le texte. C'est très important, oui. C'est très important.
Est-ce que vous voulez inviter les personnes à aller voir les deux choses au Forum des Images? Au choix?
Bon, il y a beaucoup de choses. Non, ce serait ingrat d'en choisir que deux. Non, non. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un très bon travail, Muriel Dreyfus et toute l'équipe de programmation du Forum des Images. C'est bien construit, il y a des films rares. Alors, les films dans lesquels je joue pas, si c'est plus facile pour moi d'en parler, il y a un film de Cassavetes qui est pas un des plus connus parce que ça ressemble pas du Cassavetes. C'est le seul film de studio qu'il a fait avec Judy Garland et Burt Lancaster, qui se passe dans un institut pour autistes, qui est un film bouleversant, magnifique. Et un autre film de Marco Ferreri, qui est un metteur en scène qui est un peu pas très bien reçu aujourd'hui, mais que j'admire beaucoup, qui s'appelle Pipi Caca Dodo, avec Roberto Benigni dans le rôle d'un instituteur, qui est en totale opposition avec le système d'éducation de l'époque, et je pense qu'il le serait toujours aujourd'hui. Voilà, c'est des films un peu rares qui sont magnifiques.
Merci beaucoup, Melville.
Merci à vous.
Mille Melville au Forum des Images.
Mille merci à vous.
Merci à vous. Jusqu'au 26 septembre. C'est à Paris. C'est Éric Boisset à la prise de son ce soir, Élise-Marie Barré à la réalisation. Par les temps qui courent, c'est Lucie Riandet, Romain de Bec-de-Lièvre, Jeanne Aléos et Marianne Chassor. Par les temps qui courent, franceculture.fr pour tout, le podcast et le journal à 22h dans un instant. Très belle soirée.